Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. J'ai quelque chose de très important à partager avec vous. Nous avons parlé de ce que les femmes et les hommes veulent le plus et ce dont ils ont le plus besoin. Prenez un bloc-notes, un crayon, votre Bible et nous allons plonger dans ce sujet. Écoutez, cela peut changer votre vie. J'aurais aimé écouter ce truc il y a 50 ans, mais personne ne me l'a dit. Je vais vous en faire part. Bonjour, je suis Bélez Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Je suis très heureux que vous vous soyez joints à moi aujourd'hui. Écoutez, installez-vous sur votre canapé, positionnez-vous sur votre lit, prenez juste place et passons les prochaines minutes ensemble. Je vous garantis qu'il y aura quelque chose d'intéressant dont vous avez besoin. Nous parlons de ce que les hommes et les femmes veulent et de ce dont ils ont le plus besoin. Et plus particulièrement, nous en parlons dans le contexte du mariage. Mais que vous soyez marié ou non, heureux ou malheureux dans votre mariage, quelle que soit votre situation actuelle dans la vie, vous bénéficierez de ceci et cela vous aidera. Dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul parle beaucoup du mariage à l'église d'Éphèse. Il dit que les maris doivent aimer leurs femmes comme le Christ a aimé l'église et il en parle de manière répétitive. Et puis, tout cela se termine au verset 33. Et il dit ceci. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Très bien. Messieurs les maris, aimez vos femmes. Mesdames, respectez vos maris. C'est naturel pour un homme de respecter et c'est naturel pour une femme d'aimer. Ce que toute femme désire le plus, c'est d'être aimée et de savoir qu'elle est aimée. Elle veut que cela s'exprime par des mots, par des actions, par des attitudes. Et plus que tout, mesdames, vous écoutez, plus que tout, un homme veut être respecté. Et il veut savoir qu'il l'est par des mots, des actions et des attitudes. La dernière fois, nous avons beaucoup parlé du rôle de l'homme qui consiste à aimer sa femme. Mais nous nous sommes focalisés et nous avons terminé la dernière fois sur le respect des épouses envers leurs époux. C'est un commandement auquel il faut obéir. Et il y a trois domaines dans lesquels un homme veut savoir qu'il est honoré et respecté, notamment son travail, sa sagesse et sa chaleur humaine, dans ces trois domaines, et je vais les expliquer. Le premier, le travail. Nous en avons parlé la dernière fois, mais je veux simplement récapituler. En tant qu'homme, notre identité est liée à notre travail. C'est quelque chose que Dieu a mis dans chaque homme. Nous nous identifions par cela. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis l'homme dans le jardin pour cultiver et garder, pour subvenir aux besoins et protéger. Et ces choses sont ancrées en chaque homme. Cependant, la société va essayer d'émasculer les hommes et concevoir toutes sortes d'idées et de philosophies néfastes. Mais écoutez, c'est ainsi que Dieu nous a créés. Et au fond, chaque homme est créé avec le désir de subvenir aux besoins et de protéger. Et il est important pour nous de savoir que nous sommes respectés, admirés et appréciés pour le travail que nous faisons. En fait, mesdames, ceci pourrait vous intéresser. Les hommes établissent des liens en passant du temps ensemble. Et je vais parler de cela un peu plus tard. Mais l'une des premières questions que les hommes se posent, même si l'on ne se connaît pas, l'on vient de rencontrer d'autres hommes. Cela pourrait être sur un terrain de golf, cela pourrait être lors d'un dîner avec des amis, peu importe. Une des premières questions que l'on se pose, que faites-vous dans la vie? Parce que notre identité est liée à notre travail. C'est ainsi que Dieu nous a fait. Et les dames, je le sais, en observant ma femme se réunir avec d'autres femmes, une des premières choses qu'elle se demandait, « Avez-vous des enfants ?» Elles parlent de leurs enfants, elles parlent de leurs petits-enfants, elles parlent de leurs relations. C'est ainsi que Dieu a créé les femmes. Dans le jardin d'Éden, depuis le début, nous devons revenir en arrière pour examiner la semence si nous voulons comprendre l'arbre et le fruit. Dieu a donné un travail à l'homme. va travailler dans le jardin et protège-le. La première chose que Dieu a faite quand il a créé la femme, c'est de lui donner une relation. Il l'a amenée à l'homme. La chose la plus importante pour les femmes, ce sont les relations. La chose la plus importante pour les hommes, c'est le travail. Surtout quand nous en parlons, juste comme je le disais. Alors, mesdames, comprenez que votre homme veut être respecté dans ce domaine. Alors dites-lui que vous l'appréciez, remerciez-le de s'investir et de fournir des efforts. Et s'il est temporairement sans emploi et en cherche un nouveau, ne le harcelez pas, encouragez-le dans ce domaine. Il en a vraiment besoin. La deuxième chose que Dieu a dite à Adam, la deuxième tâche qui lui a été confiée, c'est de protéger. Cultiver et garder le jardin. Le mot « garder » signifie « protéger ». Surveiller, bien évidemment, Adam n'a pas fait du bon travail dans ce domaine. Le serpent est entré et a trompé Ève. Adam avait le pouvoir d'intervenir et d'arrêter cela. Et il ne l'a pas fait. Mais écoutez, c'est ancré en nous de vous protéger. C'est quelque chose que Dieu a mis ici, pas pour vous contrôler, mais Dieu l'a mis en vous pour vous protéger. J'ai épousé la fille d'un fermier du Midwest. Et c'est une fonceuse. Elle est allée à l'université, elle est devenue première de son université, elle a étudié infirmerie. C'est une bosseuse, c'est une fille brillante. Et nous nous sommes mariés. Je travaillais alors comme pasteur adjoint dans une église et j'avais un deuxième emploi comme vitrier. Je posais des vitres dans des banques et des bâtiments commerciaux. Et nous habitions dans un petit appartement. Nous étions mariés depuis quelques semaines seulement. Et un soir, elle s'apprêtait à aller quelque part. Je lui ai dit « Où vas-tu ? » Elle a dit « Je vais au centre commercial. » Nous vivions dans une petite ville. Mais il y avait une grande ville à environ 15 kilomètres qui avait un grand centre commercial. Et elle a dit, « Je vais au centre commercial. » Et je me suis tenu devant la porte. Elle a dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai répondu, « Tu ne vas pas au centre commercial. » Elle a dit, « Comment cela, je ne vais pas au centre commercial ?» J'ai dit, « Tu ne vas pas au centre commercial. » Elle a répondu, « Si, j'y vais, laisse-moi passer. » J'ai dit, « Non, je ne te laisse pas aller au centre commercial. » La raison étant, et je lui ai expliqué que c'était un grand centre commercial, plutôt louche de la ville. Il n'y avait pas un bon éclairage dans le parking, et le mois précédent, il y avait eu deux viols sur le parking du centre commercial. J'ai dit, « Tu ne vas pas aller au centre commercial. Ce n'est pas que je veuille te contrôler. Je ne veux pas être un dictateur, mais je vais te protéger. Et je ne peux pas y aller maintenant, sinon je serai allé avec toi. Tu n'iras pas au centre commercial toute seule. » Et elle s'est énervée. Elle n'avait pas l'habitude qu'un homme lui dise ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire. Mais ensuite, elle a réalisé que j'essayais simplement de la protéger. Je ne voulais pas la contrôler. Je ne veux pas être le maître de sa vie. Je ne veux pas qu'elle perde sa personnalité et sa faculté de choisir. Mais c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Et je suis toujours le protecteur de sa vie à ce jour. Mesdames, il est important que vous le reconnaissiez et que vous exprimiez votre respect pour cela. Si vous faites cela, votre mari commencera inconsciemment, peut-être pas tout de suite, mais je prédis que tôt ou tard, il réagira inconsciemment en vous aimant davantage. Le deuxième domaine dans lequel les hommes veulent être respectés est ce que j'appelle la sagesse, la prédisposition innée de l'homme à diriger ou réparer les choses. Nous pourrions le dire ainsi, guider et résoudre. J'ai lu une fois l'histoire d'un couple marié. Et ce couple marié avait décidé très tôt dans leur mariage que l'homme prendrait toutes les grandes décisions et que la femme prendrait toutes les petites décisions, toutes les décisions mineures de la vie. Et après 20 ans de mariage, l'homme a réalisé que la femme n'avait considéré aucune décision qu'il avait prise comme étant importante. Elle les considérait toutes comme mineures. Écoutez, mesdames, cela ne diminue pas votre capacité à prendre des décisions et à être sage. Et je réalise qu'avec ma femme Janet, il y a des choses qu'elle fait mieux que moi. Et je la laisse faire ces choses. Nous avons travaillé sur ce genre de choses dans notre relation. Et donc, il y a des choses qu'elle fait mieux que moi. Elle est plus perspicace. Elle a une aptitude innée à faire certaines choses. Et il y a certaines choses que je fais aussi. Écoutez-moi bien. C'est Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Éphésiens 5, 22 à 24, il est dit, « Femmes, soumettez-vous à votre mari. Soumettez-vous à votre propre mari, pas au mari de quelqu'un d'autre. Soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari, le mot « soumettez » est un terme militaire. Il signifie « se plier à ». Et avant cela, il est question que les maris et les femmes soient soumis à Dieu. Je vais en parler dans un instant. Mais vous, les femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Ainsi, pour l'unité, les femmes doivent se soumettre à leur propre mari comme au Seigneur. Maintenant, messieurs les maris, laissez-moi vous dire ceci. Le mari est assimilé au Christ. La femme est comparée à l'Église, n'est-ce pas? Jésus est parfait dans ce qu'il fait avec l'Église. Si vous aimez votre femme comme Jésus vous aime, elle n'aura aucun problème à se soumettre à vous. Les amis, je me soumets volontiers à Jésus. Je veux entendre sa prochaine instruction. Seigneur, guide-moi. Que veux-tu que je fasse? Mais vous savez quoi? Il a toujours du temps pour moi. Il n'utilise jamais mes échecs passés contre moi. Il a toujours mon intérêt à cœur. Il m'aime. Il a donné sa vie pour moi. Et si j'aime ma femme, comme Jésus m'a aimé, eh bien la soumission n'est pas un problème. Écoutez, il s'agit d'une soumission entre égaux. Cela n'a rien à voir avec la supériorité et l'infériorité. En fait, laissez-moi vous lire un autre verset. C'est 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Il dit, « Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Voici femme et homme, ce sont les mêmes mots traduits pour époux et épouse dans le Nouveau Testament. C'est en vertu du contexte qu'on peut déterminer s'il s'agit d'homme ou de femme, ou d'époux et d'épouse. Ici, il s'agit très certainement d'époux et épouse. Je veux donc que vous sachiez que le chef de tout homme est le Christ, le chef de tout mari est le Christ, le chef de la femme est le mari, et le chef du Christ est Dieu. Bien, le chef du Christ est Dieu le Père. Eh bien, mes amis, Dieu le Père et Jésus le Fils sont égaux. C'est une soumission entre égaux. Et entre les maris et les femmes, au nom de l'unité, c'est une soumission volontaire entre égaux. Disons que vous avez une certaine décision à prendre et que vous n'êtes pas d'accord sur certains points. La femme a son opinion, le mari a la sienne. D'accord? Parlez-en. Si vous n'êtes pas disposé à accepter l'opinion et la contribution de votre femme, vous avez un long chemin à faire, mes amis. Vous devez être réceptif, vous devez l'écouter, parce que dans le futur, il arrivera qu'elle ait beaucoup d'idées dont vous aurez désespérément besoin. Pour cela, vous devez écouter et parler. Et après en avoir discuté et y avoir réfléchi, si vous n'êtes toujours pas d'accord, alors priez à ce sujet. Tous les deux, priez à ce sujet. Marie, priez. Dieu, voilà ce que je pense faire. C'est la décision que j'ai prise. Mais ma femme voit les choses différemment. Dieu, guide-moi par ton esprit. Et si après avoir prié à ce sujet avec sincérité, vous ne tombez toujours pas d'accord, alors les Écritures disent que la femme doit se soumettre à son mari. Je vous dis simplement ce que dit la Bible pour le bien de l'unité. Et je sais que quelqu'un dira, « Eh bien, mon mari est tellement passif. Si je ne prends pas la décision, rien ne sera fait. Se pourrait-il que lorsqu'il a suggéré quelque chose, vous aviez toujours une meilleure idée? Certaines, chaque fois que leur mari essaie de prendre une décision, elles devancent leur mari. Elles ont simplement une meilleure idée et elles font valoir leur idée et leur opinion jusqu'à ce que le mari finisse par dire « Écoute, je ne veux pas de Troisième Guerre mondiale, fais ce que tu veux. » Il réalise que vous allez sortir de vos gonds. Il ne veut pas avoir un arrêt cardiaque et concède. Et certaines femmes disent « Je veux qu'il soit le chef tant qu'il fait ce que je veux. » Eh bien, c'est là le problème. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous pensez être meilleur. Est-ce que vous le harcelez? Disons que vous vous soumettez et dites « Bon, on va faire ce que tu veux. » Mais ensuite, vous vous mettez en colère, vous boudez, et vous avez la mauvaise humeur, et vous lui rendez la vie misérable. Non, ce n'est pas la solution. Vous devez simplement vous soumettre et dire « Bon, chérie, nous avons prié à ce sujet. Je crois simplement que Dieu va t'utiliser et qu'il va agir à travers toi. » Et il s'avère que c'est la mauvaise décision, messieurs. Soyez des hommes nobles et reconnaissez votre erreur. Elle vous respectera encore plus pour cela. Il convient de noter que lorsque l'ange a visité Marie et qu'elle a conçu Jésus, Dieu a traité directement avec Marie. L'ange a traité directement avec Marie. Mais après son mariage avec Joseph, c'est à Joseph que Dieu donnait les directives. C'est l'ange qui a parlé à Joseph. C'est Joseph qui a fait le rêve. C'est quelque chose qu'il faut considérer. Beaucoup disent généralement, « Je dois défendre mes droits », comme pour justifier leur attitude irrespectueuse. Non, vous pouvez défendre vos droits. Vous pouvez le faire d'une manière respectueuse et honorable, et vous n'avez pas besoin d'être en colère, et vous n'avez pas besoin d'être de mauvaise humeur. C'est de la manipulation, et cela va détruire et ruiner tout mariage ou toute relation. Encore une fois, nous parlons, et le contexte ici dans Éphésiens et les versets que nous avons lus, ils sont écrits aux chrétiens, ils sont écrits pour les croyants. Nous allons du principe que votre mari aime le Seigneur et fait des efforts. Il n'est pas parfait et vous ne l'êtes pas non plus. Alors c'est le contexte dans lequel cela s'inscrit. Mesdames, laissez-moi vous dire que vous obtiendrez ce que vous voulez plus que vous ne le pensez si vous reconnaissez et respectez son désir inné de diriger. Cela demandera certainement de la foi de votre part. Mais si vous faites preuve d'un esprit tranquille et respectez ses propositions et ses décisions, vous découvrirez non seulement que Dieu l'utilisera, mais votre mari répondra en vous montrant de l'affection et de l'amour. Je sais que ma femme ne m'en voudra pas d'en parler. Nous en avons déjà parlé. Je ne parle pas d'histoire privée sans son accord. Mais nous voulions faire quelque chose une fois et nous avions besoin d'un avocat pour le faire. Il s'agissait de préparer des choses pour notre avenir. Et c'était il y a longtemps. Et nous sommes allés rencontrer un avocat qui nous avait été recommandé. Et quelque temps après, nous sommes allés le rencontrer pour discuter d'autres choses concernant mes parents, quand ils étaient encore en vie. Et puis, quand il s'est avéré que nous devions régler certaines choses pour notre avenir, pour nos enfants, j'ai dit, « Je voudrais faire appel à cet avocat. » Elle a croisé les bras. Je ne l'oublierai jamais. Elle a croisé les bras et elle a dit, « Non, non, non. » Et elle a commencé à secouer la tête. Elle pensait qu'il était impoli. Je l'aimais bien, parce que je le trouvais direct. Son caractère franc et décisif me plaisait. Mais elle voyait cela comme de l'impolitesse. Elle est restée ferme sur sa position et on a fini par ne pas le faire. Mais cela m'a poussé à me renfermer. Je me suis tue. Je me suis sentie complètement méprisée. Et elle ne m'a pas du tout écoutée. Et on a fini par en parler. Et elle s'est excusée pour cela. Et on a arrangé les choses. S'il fallait maintenant que je raconte les histoires où c'est moi qui devais présenter des excuses, cela nous prendrait les 6 prochains mois. Je dis simplement que j'ai une femme géniale. Je ne suis pas parfait. Et elle me supporte. Mais vous devez respecter votre homme par rapport à son désir de diriger et de prendre des décisions. Nous avons en nous le désir de résoudre et de réparer les choses. Croyez-le ou non, nous avons de l'intuition, tout comme vous avez de l'intuition. Et enfin, je n'ai que quelques minutes à consacrer à cela, et je vais l'appeler la chaleur humaine. C'est le besoin naturel de l'homme d'avoir de la compagnie, et bien sûr, de faire l'amour. Concernant la compagnie, Tite chapitre 2, verset 4, cela s'adresse aux femmes plus âgées. L'Église dit ceci. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. On demande aux maris d'aimer leurs femmes, agapé, un amour autosacrificiel qui les place absolument en premier, le même genre d'amour que Jésus a déversé sur la croix. Mais voici, lorsque les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari, ce n'est pas le mot agapé. C'est le mot grec philéo, qui signifie amitié, camaraderie, être ami. La plupart des maris savent que leurs femmes les aiment, mais ils ne sont pas sûrs que leurs femmes les apprécient. Les hommes communiquent en faisant part de leur expérience. Et parler est facultatif. Votre mari veut simplement que vous fassiez des choses avec lui. C'est très important pour nous. Un de mes jours préférés, Janet et moi, j'avais un petit bateau et nous sommes allés dans un port près de chez nous, le port de Long Beach. Je pêchais le flétan. C'était une journée ensoleillée. Je portais un short sans chemise, je tenais ma canne à pêche et je lançais. Et elle était assise dans le bateau et elle lisait un livre. Et nous étions simplement là, ensemble. Et je pêchais plusieurs flétans, de bons poissons à manger. On est resté là pendant environ 3 heures. On a parlé un peu, mais pas beaucoup. Je me contentais de lancer et de rembobiner. Et de temps en temps, je la regardais, je souriais et elle me souriait. Et nous sommes rentrés. Et c'était le meilleur jour de notre vie. On a à peine dit 10 mots, mais c'est comme cela que les hommes forment des liens. Alors, s'il regarde un match de foot, allez vous asseoir près de lui sur le canapé et passez simplement du temps avec lui. Et peut-être que vous faisiez cela avant d'être marié, et il pensait, « Bon, je dois avoir cette fille avant qu'elle ne m'échappe. Elle va s'asseoir sur le canapé avec moi et elle va regarder un match de foot. » Et vous? Vous avez arrêté de faire cela tout en pensant, « Bon, je ne veux plus faire cela maintenant. Je suis marié avec lui. » Non, nous voulons que vous fassiez ces choses. C'est de la chaleur humaine que nous voulons recevoir de vous. De même, les relations sexuelles sont également d'une très grande importance pour un homme. Laissez-moi vous lire ceci. C'est tiré de la Message Bible et c'est 1 Corinthiens, chapitre 7, il est écrit à partir du verset 1. Or, concernant les choses dont vous m'avez écrit, premièrement, est-ce une bonne chose d'avoir des relations sexuelles? Certainement, mais seulement dans un certain contexte. Il est bon pour l'homme d'avoir une femme et pour une femme d'avoir un mari. Les pulsions sexuelles sont fortes, mais le mariage est suffisamment fort pour les contenir et assurer une vie sexuelle équilibrée et épanouie dans un monde de désordre sexuel. Le sexe est une idée de Dieu. Il doit être vécu et savouré dans le contexte du mariage. Le sexe est important pour les hommes. Le sexe est important pour les femmes. Je me souviens avoir lu l'histoire d'un homme. Il est allé postuler pour un emploi et il a reçu un questionnaire. Il fallait cocher la case sexe et c'était des cases où il fallait cocher sexe masculin ou féminin. Mais à la place, il a simplement écrit à côté « pas assez ». Quant aux femmes, elles ont besoin de se sentir connectées émotionnellement pour pouvoir jouir du sexe. C'est un peu l'inverse avec les hommes. L'acte sexuel, l'épanouissement sexuel, nous fait ressentir la proximité émotionnelle et par conséquent, c'est quelque chose dont il faut parler. Je pense qu'il est important de faire régulièrement l'amour pour ne pas être tenté. La Bible en parle également. C'est une bonne chose. C'est une chose excellente dans le mariage. Et c'est une chose dont nous devrions parler sans hésiter. Écoutez donc, si j'avais plus de temps, j'en parlerais davantage. Mais mari, femme, je veux simplement vous encourager. Prenez le temps de parler de votre relation sexuelle avec l'autre et sachez que vous êtes de nature différente. La plupart des hommes sont sensibles à ce qu'ils voient. Il suffit qu'ils vous voient nu dans la douche pour être excités. Mais les gars, sachez que pour les femmes, tout commence généralement pendant le petit déjeuner par des mots de gentillesse et d'amour, en lui manifestant de l'affection tôt le matin, car la plupart des femmes sont stimulées par les paroles douces, romantiques. Cela les prédispose à l'épanouissement sexuel. Pour finir, laissez-moi vous dire ceci. Mesdames, respectez vos maris. Messieurs les maris, aimez votre femme et vous pourrez avoir un excellent mariage. J'espère que le message d'aujourd'hui vous a apporté quelque chose. Et écoutez, si vous êtes dans une situation difficile dans votre mariage en ce moment, peut-être que votre partenaire a été infidèle. Peut-être qu'il y a eu de la négligence pendant longtemps et que votre cœur est si blessé que vous ne pensez pas pouvoir vous en remettre. Dieu a de la sagesse pour vous. Dieu a une voie dans laquelle vous pouvez marcher. Si vous lui demandez la sagesse, Dieu vous la donnera. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, demandez de la sagesse à Dieu. Il la donne généreusement, sans trouver de faute. Le livre de Jacques nous le dit dans le tout premier chapitre. Dieu vous aidera. Il vous aime. Il a envoyé son Fils mourir.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.